Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, désormais les jeudis c'est en musique que se fait le réveil culturel. Et aujourd'hui je reçois l'auteur, compositeur, interprète Pierre Lapointe. Star au Québec avec déjà une dizaine d'albums à son actif, il est en tournée en France en ce moment. En France où le nombre de ses fans ne cesse d'augmenter. Rocker mais romantique, chanteur de variété mais qui soigne ses textes, drôle même quand il évoque les choses les plus graves. Il diffuse son univers mélancolique sur scène en ce moment avec Pierre Lapointe, le musicien. Musical devient un lieu où tout est possible. Merci d'être avec nous ce matin, Pierre Lapointe.
Bonjour, ça fait très plaisir d'être là.
Le réveil culturel préparé avec Corinne Amard, réalisé par Vincent Abouchard avec ce matin. À la prise de son, Régis Nicolas. Et si vous n'êtes pas lefto, l'abonnement au podcast est vraiment recommandé. Tous les jeudis, c'est la musique dans le réveil culturel.
Au milieu de la mer danse des carrés de lumière trans. Passant du rose au bleu, danse. Je ne dors plus, je pense. Je ne dors plus, je pense. Une citrouille sur la mer flotte. De nos montres, les aiguilles trottent. Le ciel pleure, dehors il flotte. Je ne dors plus, je pense. Je ne dors plus, je pense.
C'est vraiment un mystère, hein, Pierre Lapointe. Quand vous chantez, vous n'avez plus l'accent québécois.
Ouais, je suis pas le seul. Il y en a plusieurs qui c'est comme ça. Pour qui c'est comme ça, je pense à Isabelle Boulay, à Céline Dion, à Garou. Ça disparaît. Je pense que comment notre bouche est faite, comment notre langue se place, pour nous, c'est facile de passer de l'accent québécois à l'accent français. Mais en revanche, j'ai rarement entendu des Français qui étaient capables de bien faire l'accent québécois sans vouloir vexer personne.
Sans passer par le registre de l'humour, vous voulez dire.
Ouais, bah même, oui, j'ai plein d'amis qui s'adonnent à des tentatives. À chaque fois, je dis ça va, c'est bon, laisse tomber, tu l'as pas. Ça marche pas.
Pierre Lapointe, après un album plutôt acoustique, piano-voix, après Paris Tristesse, vous revenez avec cet album, donc La Science du Cœur, sorti l'année dernière. Et là, c'est vraiment le contraire. C'est un album très orchestré, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire nappé de violon, de piano, de cordes. Ouais. Pourquoi?
En fait, Paris Tristesse, c'était au départ une volonté de faire découvrir surtout au public français mon talent d'auteur, compositeur, interprète. Et à ce moment-là, je faisais une tournée piano-voix. Donc, c'est une espèce de recueil de mes plus grandes chansons tristes, Paris Tristesse. La Science du Cœur, c'est vraiment un album nouveau avec des compositions qui n'avaient jamais vécu avant cet album-là. Et je me suis associé à David-François Moreau, qui est un réalisateur français, arrangeur, compositeur.
Et de films notamment.
De musique pour la danse, notamment. Et des albums pop. Il a travaillé avec Bruel, il a travaillé avec Cali aussi.
Bruel, son frère, non?
Oui, aussi, oui. Je n'allais pas jusque-là, mais oui, en effet, c'est son frère, il ne pourra jamais s'en sortir.
Mais vous pouvez le dire, Pierre Lapointe, parce que vous pouvez assumer ce côté variété.
Ah oui, totalement.
Et en même temps, vous soignez vos textes.
Oui, c'est drôle parce que l'album, justement, le but c'était de faire un clin d'œil à la grande tradition de la chanson française et l'amener vers quelque chose qui se rapproche rapproche un peu de la musique contemporaine classique. David était le gars tout indiqué pour travailler avec moi là-dessus. Et il faut savoir qu'au Québec, j'arrive avec des albums et des chansons assez champ gauche. Je me tiens beaucoup avec la scène d'avant-garde, avec des sculpteurs, avec des designers, entre autres Nathalie Crasset, qui est une designer de chez vous. Et en revanche, j'ai été pendant 3 saisons coach à The Voice chez nous. Donc, je suis vraiment, j'ai un pied dans la pop culture, mais très, très concentré, et l'autre pied dans l'avant-garde, très, très concentré aussi. Et c'est ce qui fait que je me balade dans ces deux univers-là, sans aucun complexe, sans aucun préjugé, et je trouve que c'est un peu la carrière de mes rêves, puisque c'est très enrichissant, et je ne m'adonne pas au snobisme ou à la censure que les préjugés pourraient m'imposer.
Comment êtes-vous arrivé à la musique? Ou, pour être plus précis, Pierre Lapointe, par quel instrument êtes-vous arrivé à cet univers musical?
Bah, j'ai fait du violon pendant 5 ans quand j'étais enfant. Mm-hmm. J'ai détesté ça. Et j'ai fait du piano durant 5 ans, durant ce qu'on pourrait comparer au lycée ici, durant mon adolescence. Maintenant, je ne lis toujours pas la musique et je n'écris pas la musique. Pour
quand moi, vous dites violon, piano, on vous imagine dans une grande maison à Montréal.
Ah non, j'étais pas à Montréal.
Dans une famille bourgeoise.
Ah non, du tout. Non, j'ai un milieu très modeste en fait, avec des parents pleins d'amour qui ont voulu me donner la chance d'aller là où je voulais aller, sauf que je n'ai jamais réussi à cadrer dans aucun contexte scolaire, comme j'étais dyslexique et que ça n'avait pas été diagnostiqué, comme j'étais très très sensible. Je pense que j'ai toujours été musicien. J'étais enfant et je me réveillais parce que j'avais la musique dans la tête durant la nuit, c'était très très fort. Et le jour où j'ai pu commencer à créer des musiques par moi-même, j'ai commencé à respirer en fait. Et à mesure que j'ai avancé, au début, moi, je me destinais à être comédien. Je voulais être metteur en scène, je voulais faire de l'art d'avant-garde sur scène, mais je pensais pas à la chanson, je pensais pas à la musique parce que j'étais pas capable de lire et pour moi, c'était un handicap énorme. Et un jour, j'ai réalisé que tout ce que j'avais construit seul dans mon coin pour moi, pour m'aider à aller mieux, pouvait devenir un outil merveilleux. Et ce jour-là, je me suis dit, bon, ben, ça y est, j'ai mis le doigt sur ce que je veux faire.
Quel âge
quand j'ai fait l'école de théâtre à 19 ans,
ouais.
J'ai chanté pour la première fois et les professeurs m'ont rencontré d'urgence. Après m'avoir entendu, ils m'ont dit, bon, ça fait combien de temps que tu chantes? J'ai commencé la semaine dernière. Ils m'ont dit, OK, ce que t'as chanté, c'était quoi? C'est une chanson que j'ai composée la semaine d'avant. Et ils m'ont dit, OK, on comprend pas d'où ça vient. Mais il se passe quelque chose de très fort. Et 3 mois plus tard, ils me mettaient à la porte de l'école de théâtre. J'étais vraiment fâché contre le directeur. Je me suis allé m'engueuler avec lui en disant « Mais moi, je vais être acteur. » Il a dit « Non, t'es musicien, ta gueule. » Et je suis parti de l'école et je me suis dit « Bon, je vais essayer de faire de la chanson. » Et ça m'emmerdait un peu au départ, mais à un moment, je me suis dit « Je vais utiliser la chanson, comme ça a l'air d'être facile. » pour devenir directeur artistique de mes propres projets et commencer à faire exploser la chanson comme je voulais le faire en théâtre. Et ça a fonctionné. Et ça fonctionne toujours.
Comme une des interprètes que vous chérissez,
Brigitte Fontaine.
Qui est passée par la chanson pour faire du théâtre, parce qu'elle voulait d'abord faire du théâtre et se produire sur scène.
Ouais, je pense, et c'est fréquent. Je pense à Robert Charlebois chez nous. Il y en a plein qui sont passés par le théâtre. Même, je pense à Pauline Julien aussi, une grande interprète qui est décédée depuis quelques années déjà, mais qui a marqué l'histoire du Québec. Même Michel Rivard, le chanteur de Beau Dommage. Ils sont tous passés par le théâtre chez nous avant d'aller en chanson. Et je pense que aussi c'est parce qu'il n'y a pas d'école, il y en a une maintenant, mais il n'y avait pas d'école de chanson vraiment. Ça existe plus ou moins en chanson francophone, donc je pense que le théâtre est un milieu quand même assez connexe où on apprend à travailler tout le corps, comment se présenter, comment jouer avec cet instrument-là. Et je pense que le chant finit par arriver peut-être un peu après, mais c'est un passage qui a été très très formateur et très important parce que je pense que quand j'ai commencé à faire de la chanson, j'avais une longueur d'avance sur beaucoup de gens parce que j'avais réfléchi sur ce qu'était la scène, ce qu'était un tréteau, pourquoi on était magnifié tout à coup dans cet espace-là. Et j'ai compris que c'était un espace de jeu et j'ai appliqué ce principe-là sur la chanson et ça a fait de moi un être un peu inclassable et assez singulier dans le paysage québécois.
Alors, inclassable, c'est le mot. D'ailleurs, les professeurs ont posé la bonne question. D'où viennent ces idées, quelle inspiration vous a bercé quand on vous entend, Pierre Lapointe, citer Robert Charlebois et tous les anciens chanteurs du Québec? Je n'ai qu'une seule envie, c'est de rappeler que vous êtes jeune et que vous avez 37 ans aujourd'hui.
Ouais.
Vous avez grandi avec quelle musique dans les oreilles?
Bah, J'ai toujours été très très curieux, et pour moi la musique était un moyen extraordinaire de comprendre l'histoire. Et parce que la musique est toujours très très liée aux mouvements sociaux et à ce qui se passe même politiquement. Donc j'ai compris l'histoire du Québec par la chanson. Et j'avais pas beaucoup d'argent quand j'étais adolescent, donc j'achetais des vinyles, et donc j'ai dévoré tout ce que Plamondon a fait avec Dufresne, avec René Claude, avec tout le monde en fait. Et j'ai dévoré ensuite ce que Gainsbourg avait fait avec tout le monde. J'ai fini par trouver à cette époque-là quatre mentors, avant même de savoir que j'allais écrire une chanson. C'était au Québec Diane Dufresne et Robert Charlebois, donc la chanson réinventée qui décoinçait et décoiffait. Et du côté français, c'était Barbara et Gainsbourg. Je pense que je suis quelque part entre ces quatre auteurs-compositeurs-interprètes-là. Maintenant, la première fois que j'ai écrit une chanson, c'est parce que je venais de découvrir le travail d'Alain Bachung avec Fantaisie militaire et le travail de Brigitte Fontaine avec l'album Morceau de choix. Et ensuite, j'ai découvert l'album qu'elle avait fait chez Saravin avec Pierre Barou à l'époque, Brigitte Fontaine et Trois Petits Points, on ne sait pas trop. ça, c'est pas moi qui le dis.
Et, c'est ce que voulait dire Pierre Barou, mais elle n'était pas d'accord.
Ouais. Donc, j'ai fini par écrire mes premiers textes sur des musiques. C'était des textes très, très abstraits. C'est plus des chansons que je chante aujourd'hui, mais c'est quand même Brigitte Fontaine et Alain Bachung qui m'ont donné la liberté d'être ce que je pensais qu'il fallait que je sois en tant qu'auteur-compositeur.
Ça, c'est pour l'écriture.
Ouais.
Alors, pourquoi explorer l'intime, toujours l'intime, parce que ça revient souvent dans vos chansons, Pierre
ouais,
Lapointe, la complexité, l'ambivalence des sentiments ouais. amoureux. Pourquoi avoir installé dès le début ce personnage d'amoureux solitaire qui s'adresse au cœur brisé?
Le sentiment amoureux, déjà, c'est probablement le plus beau sentiment que l'humain peut ressentir, que ce soit envers en amitié, que ce soit fraternel, paternel, maternel ou simplement charnel. L'amour est le plus beau et le plus grand sentiment qu'on peut ressentir. Donc,
mais il est malheureux chez vous très souvent.
Oui, il est malheureux parce que je pense aussi que il y a une part de, je suis un grand romantique. Hein, les romantiques aiment bien se vautrer dans une forme de souffrance et de mélancolie. Maintenant, c'est aussi parce que je pense que si j'avais décrit ma vie telle quelle sans l'amplifier, en faire quelque chose d'extraordinaire, ça aurait été un peu ennuyant comme chanson. Donc j'amplifie tout.
Tu détestes ta jeunesse, tes beaux cheveux blonds juvéniles qui descendent comme la vie près du mouvement de tes cils. Tu détestes ceux qui, grâce à l'amour, ne sont plus les mêmes. Tu préfères dire je t'aime à grands coups de bouquets de haine. Tu n'es pas certain d'être bien, mais jamais tu ne l'avoueras. Avoir des gestes qui font rêver, c'est tout ce qui compte ici-bas. Les magiciens des temps modernes savent bien comment mentir, comment fabriquer le beau en tuant quelques souvenirs. Tes amis sont bien, mais tu comprends le mal du grand savoir, que même eux ne pourraient goûter malgré leur force noire. Tous ensemble, vous jouerez sans malaise aux grands enfants blasés qui tanguent de la tête sur des rythmes fantomatiques saccadés. Tu repenses à tes amours, à tous ceux que tu as baisés, à quel point ils avaient l'air heureux d'avoir pu te consommer. Tu as pris un verre de trop, mais c'était pour équilibrer les sensations provoquées par tes rêveries colorées. S'étourdir est un remède facile quand l'âme a la nausée. Face aux complications répétées par la vie imposée, tu danses muet près de ton ami, celui qui sait te parler, te raisonner quand tes larmes reviennent au pas comme une armée. C'est le seul moyen que tu as pu trouver pour oublier le poids de la solitude qui revient sans cesse te hanter. Tu le sais pourquoi, mais même les mouvements dictés par ton cœur font que tu te sens abandonné au milieu de tes peurs. Crois-tu qu'un jour, malgré tout, tu seras capable d'aimer? Seul moyen possible de le savoir, c'est de recommencer. La science du cœur est un objet d'abstraction propulsé par la volonté qu'ont les gens tristes à se laisser toucher.
La science du cœur de Pierre Lapointe. Pierre Lapointe en concert. Merci de venir faire le réveil culturel avant de prendre le train pour Nantes, où vous allez vous produire donc ce soir à la Bouche d'Air. Le 17, vous serez à Bordeaux. Le 18, au Sable d'Olonne. Vous ferez le Festival de Marne à la Haie les Roses le 19 octobre. Et le 22 octobre, c'est la salle Pleyel qui vous déroule le tapis rouge.
La salle mythique, ben oui. Je suis très heureux de chanter. Là, j'ai fait une première partie de Rufus Wainwright il y a quelques années dans cette salle-là, avant les rénovations. Donc j'ai très hâte de voir comment la salle, quel visage la salle a pris.
Comment vous imaginez, comment vous élaborez vos shows, Pierre Lapointe ?
Bah les concerts c'est particulier parce que pour moi c'est un élément qui se doit de vivre indépendamment du disque. Donc souvent on se retrouve à faire un spectacle pour faire la promotion d'un disque qui vient de sortir, mais moi je me fais pas trop chier avec ça. Sur La Science du cœur, c'était très orchestré. Beaucoup d'instruments, il y a des pièces comme la Science du cœur qu'on vient d'écouter.
Et là votre tourneur vous a dit il est hors de question en fait, d'avoir tout l'orchestre.
Je suis producteur de mon propre spectacle. Oh. Donc je me suis dit à moi-même on n'arrivera pas avec 100 musiciens sur scène. Mais j'ai donc décidé de faire un peu comme Léo Ferré qui arrivait sur scène seul avec son pianiste alors que ses disques étaient très orchestrés. Et en même temps avec David-François Moreau qui a signé les arrangements du spectacle en plus de l'album, je lui ai dit j'aimerais ça qu'on ait quelque chose d'un peu contemporain. Donc il m'a dit l'instrument qui incarne bien les compositeurs des 50-60 dernières années, c'est le marimba. Donc on est piano, marimba et voix. J'ai deux musiciens extraordinaires avec moi qui viennent vraiment du milieu de la musique classique parce que tout est très écrit et c'est très très rigoureux comme écriture. Ce que David a fait, donc il a fallu trouver des musiciens qui étaient capables de jouer ça sans trop se casser la tête. Et ensuite, j'ai travaillé avec mon concepteur d'éclairage pour faire une espèce de structure qui est une espèce d'arène autour de nous, de LED coloré, une sorte de cylindre tronqué qui nous encercle. On est pris à l'intérieur de ce cercle-là et ça donne des espèces de tableaux lumineux très très... c'est plus comme une forme de sensation qui bouge et qui se mode selon l'intention et les chansons. Mais les gens sortent à la fois émus, chamboulés et très détendus. Parce
très bien comment, Pierre Lapointe?
Oh, ça change à chaque fois. Bon. J'ai plusieurs. J'ai la folie des vêtements qui m'habite, donc j'ai plusieurs ensembles que je porte sur scène et puis ça bouge de fois en fois. Maintenant, à Playa, je vais avoir un petit quelque chose de spécial. Je mets un peu plus le paquet pour les grandes salles.
Pour arriver à cette formule, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'essais. Ce sont des regards extérieurs qui vous guident. Ce sont des amis qui sont là dans les coulisses.
C'est beaucoup de réflexion. Ça se fait à mesure. En fait, il y a des trucs qui s'imposent. J'ai une équipe très très solide avec qui je travaille à Montréal. Mon manager avec qui je coproduis les spectacles est très très impliqué. Sa femme qui est bookeuse aussi. Je dirais que une de mes forces aussi, c'est d'être capable d'avoir un esprit... je suis un très bon DA. Si on regarde mes vidéos...
Directeur
artistique. Si on regarde les clips de La Science du cœur ou C'est-tu vraiment qui tu es, ceux qui sont sortis autour de l'album, ou même la pochette de La Science du cœur, c'est moi qui ai signé la direction artistique, c'est moi qui monte les équipes autour de ça. J'ai une équipe extraordinaire chez Audiogramme, la maison de disques avec qui je suis, le label avec qui je suis à Montréal.
Mais dites maintenant, donc, vous êtes vraiment un enfant de votre époque, Pierre Lapointe. Vous faites tout?
Ben, je fais tout, ça, mais en fait, je choisis les bonnes équipes pour m'impliquer partout, mais je fais pas tout. Je suis assez intelligent pour déléguer et profiter de l'univers et du cerveau des gens qui m'entourent. Maintenant, j'ai la chance d'être bien tombé, d'avoir à chaque fois des gens extrêmement enthousiastes, emballés et passionnés autour de moi. Mais je pense que j'appelle ça parce que je suis comme ça aussi.
Est-ce que vos propos, vos paroles, vos chansons, vos textes, Pierre Lapointe, parlent de l'époque qu'on vit ou vous êtes plutôt du genre à chercher à écrire des chansons classiques, éternelles, qui peuvent voyager dans le temps?
J'essaie, c'est drôle parce que je suis obsédé par l'idée des modes. Il n'y a pas de synthétiseur, il n'y a aucun synthé ou presque sur La Science du cœur. Paris Tristesse était tout autrement simple et intemporel. Je suis obsédé par cette idée que les gens qui écoutent ma musique dans 50 ans soient capables de l'écouter sans mettre exactement le doigt sur l'époque. Maintenant, je pense que ma façon de traiter les sentiments amoureux ou l'intimité, je pense que c'est très, très représentatif de l'époque qu'on vit en ce moment. Par rapport à l'homosexualité, ma façon de traiter ça, c'est très léger en fait, c'est très intégré. On est loin de, comme ils disent, d'Aznavour où on était dans des gros clichés qui, comme si...
Que vous avez repris.
Oui, que j'ai repris. J'ai énormément d'estime pour cette chanson-là et j'ai énormément d'estime pour Aznavour qui l'a faite. Maintenant, c'est une vision de l'homosexualité qui est un peu binaire et un peu premier degré. Moi, je suis complètement dans d'autres choses. J'en parle comme d'un sentiment amoureux, point. Entre deux hommes, entre deux femmes, entre un homme, une femme, en trois personnes, quatre personnes, on s'en fout. C'est un sentiment amoureux. «
J'habite seul avec ma main dans un très vieil appartement, rue Sarrazade. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canarie et une chatte. Pour laisser maman reposer, très souvent je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave, j'essuie. À l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur. Je suis un peu décorateur, un peu styliste. Mais mon vrai métier, c'est la nuit. Je l'exerce en travesti. Je suis artiste. J'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégral. Après striptease, et dans la salle je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homo, comme ils disent.
Ben voilà votre reprise.
Ouais. Sur Paris Tristesse, c'est là que j'ai repris ça. C'est vrai parce que j'ai chanté cette chanson-là pour la première fois dans la maison de la radio, lorsque je faisais mes chroniques le matin à France Inter, durant l'été, je pense que c'était 2013 ou 2014, je sais plus. Et ensuite, ben, en la chantant, j'ai réalisé à quel point c'était un film magnifique et à quel point c'était agréable et grandiose d'interpréter ce genre de chanson-là, cette chanson-là particulièrement.
D'une époque révolue, donc.
D'une époque révolue, oui, comme je disais tout à l'heure. Bon, de résumer les homos à des mecs qui s'habillent en femmes et qui restent chez leur mère et qui ont un chat et qui font de la couture à un moment. On sait aujourd'hui que l'homosexualité, c'est un milliard de choses, c'est beaucoup plus complexe et heureusement diversifié que ça. Mais je trouve ça quand même intéressant parce que pour l'époque d'avoir chanté ça, il fallait être culotté quand même, surtout venant d'Aznavour qui était au pic de sa carrière, qui était une des plus grandes stars mondiales, disons-le comme
vous
ça.
Vous l'avez rencontré,
J'avais croisé, oui, parce que j'ai participé à une compilation de hommage au Québec milieu des années 2000 et j'avais repris la chanson Plaisir démodé que j'ai chanté quelques temps après. Chez nous, à chaque fin d'année, le premier de l'an, il y a un méga spectacle télévisé qui s'appelle le Bye Bye et cette année-là, j'avais chanté à minuit pile une de mes chansons et Plaisir démodé parce qu'à minuit tout le monde se souhaite bonne année, personne n'écoute la télé, donc il y avait un chanteur qui était engagé et on m'a demandé de chanter cette chanson-là et ça m'avait fait très plaisir parce que Plaisir démodé, c'est je pense que ça me représente assez bien parce que je suis quelque part entre une époque très contemporaine et très actuelle et quelque chose de complètement dépassé, un peu comme ce qu'Aznavour avait voulu décrire à l'époque où il a écrit cette chanson-là.
Votre plume, Pierre Lapointe, c'est très particulier. Vous pouvez dire que vous êtes un enfant perdu dans la forêt des mal-aimés sans que ce soit Nunuche, pour reprendre le titre de vos spectacles. Vous dites
complètement.
Il dit je t'aime avec des gros bouquets de haine.
Ouais.
Il est honteux d'être humain.
Ouais.
On s'accroche à un amour pour tromper nos solitudes. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Tu sembles incarner le divin comme si David Hockney t'avait peint.
Ouais, c'est plein de bouts de chansons partout. Faut savoir, c'est pas la même chanson.
Non, des cœurs qui saignent, des amours qui s'éteignent et qui renaissent. C'est un peu votre répertoire. Vive la vie, vive les drames. Ouais. L'amour est un spasme qui grise et embrasse la vie.
Ouais. Moi, j'aime bien être sur le fil rouge entre le kitsch qui est ridicule et le bon goût. Et je pense que j'aurais passé ma carrière même avec les images que j'ai projetées, même avec les vêtements que j'ai portés et que je vais porter jusqu'à la fin de mes jours, j'espère. J'espère garder cette direction-là. J'aime bien jouer avec les codes et essayer de trouver le beau et le solide dans le déséquilibre. En fait.
Et sans jamais être explicite, vous passez toujours par la poésie, par exemple, pour parler des réseaux sociaux, de Facebook. Préférez passer par la belle poésie. Les magiciens des temps modernes savent bien comment mentir. Comment fabriquer le bon en tuant quelques souvenirs.
Oui, et puis c'est justement ce que je trouve intéressant, c'est de décrire quelque chose que tout le monde décrit particulièrement dans la musique urbaine, avec un langage très près de la vie de tous les jours. Moi, j'ai toujours essayé de me détacher du quotidien pour m'assurer que quand les gens écoutent ma musique, ils se retrouvent un peu ailleurs, dans une espèce de petite bulle à côté. Et c'est justement le défi du poète et du créateur, c'est de regarder ce qu'il y a autour et de le décrire avec des mots, avec un regard, avec des sensations que les gens qui ne sont pas créateurs auraient jamais réussi à trouver. Donc, à force de jouer à ce jeu-là avec mon propre esprit, ça a fini par être totalement naturel et spontané. Ça m'amuse assez, en fait, même de vous réentendre, de vous entendre relire toutes ces phrases-là, dépareillées, décousues. Ça me fait un peu rire, parce que je me dis, ah ouais, c'est vrai, c'est quand même un portrait un peu particulier, mais en même temps, je pense que si je disais la vie, je la racontais comme elle vient, ce serait pas intéressant. C'est pas...
Non, vous n'êtes pas un rappeur, définitivement.
Non, je suis pas un rappeur. Encore là, il y a des rappeurs qui font extrêmement bien leur métier et qui écrivent encore mieux que moi. Maintenant, c'est drôle d'appartenir à une époque, parce qu'il faut savoir, si les gens me suivent sur Instagram, par exemple, ils voient à quel point je suis au courant de ce qui se passe, à quel point j'ai un œil aiguisé, autant en art contemporain qu'en danse, qu'en théâtre, qu'en musique, qu'en tout, en fait, qu'en architecture. Maintenant, j'aime bien essayer de saisir l'émotion universelle, et cette émotion universelle, elle n'a pas d'époque, elle est intemporelle.
Ce soir à Nantes, je le disais, le 22 à Pleyel à Paris, toutes les dates de vos concerts, Pierre Lapointe, sont à retrouver à la page de l'émission Le Réveil Culturel sur franceculture.fr. Merci d'être passé ce matin.
Merci, ça fait très plaisir.
Tes yeux sont des lasers broyeurs, tu préfères jouer les agresseurs, t'adores faire l'amour à quatre pattes, tu es né en 84, tu te regardes sur l'écran, tu fiches tes rides dans le temps, tu t'éparpilles dans les airs grâce à lui, grâce à ton grand frère. Toutes ces photos de ta vie, tu les regardes dans ton lit, elles ne te laissent jamais seul, ton image sera ton linceul. Mais sais-tu vraiment qui tu es?